Eh bien, écoutez, je suis ravi de vous voir ou de vous revoir, même si c'est dans des conditions spéciales. C'est quand même mieux que pas du tout. Enfin, on a déjà commencé hier, puisqu'hier avait lieu la troisième séance du cycle sur l'Asie, hein, et qu'un certain nombre d'entre vous étaient là hier. Et aujourd'hui, nous commençons un nouveau cycle de cinq séances sur l'Égypte ancienne, l'Égypte antique, si vous préférez. Hein. Il y en aura donc cinq. La deuxième séance, c'est... Enfin, vous avez, je pense, de toute façon, ce calendrier là. Petit détail technique, moi, je m'adresserai à vous avec le masque. Hein. Je pense que vous m'entendez bien. Enfin, hier, ça n'a pas posé de problème. Donc, je pense qu'aujourd'hui non plus. Je préfère ça pour des raisons de sécurité, évidemment, puis aussi par solidarité, après tout. Hein. Nous portons tous des masques, alors moi, comme tout le monde. Hein. Voilà. On va donc aborder cette première séance dans le cadre d'un cycle sur l'Égypte antique, domaine dont je tiens à dire que je ne suis pas du tout spécialiste, hein, je ne suis pas égyptologue. Alors j'ai eu à travailler sur l'Égypte ancienne dans le cadre de mon métier, hein, je suis conservateur en chef du patrimoine, j'ai dirigé toute une série de musées qui possédaient des collections égyptiennes. Donc dans ce cadre, j'ai eu à travailler là-dessus, j'ai été parfois commissaire d'exposition sur l'Égypte, mais je ne suis pas égyptologue, donc je ne suis pas omniscient dans ce domaine. Je ne suis même jamais allé en Égypte, hein. Je pense que beaucoup d'entre vous y sont allés, peut-être même à plusieurs reprises. Ça n'est pas mon cas. Donc vous voyez, je serais très prudent, si j'ose dire, dans ces ateliers-là. Et donc on va essayer, non pas de balayer la totalité de toutes les questions qui touchent à l'Égypte ancienne, ce serait évidemment présomptueux, mais un peu comme pour l'atelier Asie d'ailleurs, à picorer à l'intérieur cette culture égyptienne millénaire pour essayer de découvrir un certain nombre de questions concernant cette civilisation. Alors, comme d'habitude, au début de chaque atelier, je les passe toujours, hein, mais je ne les commande pas au début de toutes les séances, je le fais simplement au début de la première séance. Je vous rappelle les règles qui sont les nôtres aujourd'hui, mais dans les quatre séances prochaines. Nous n'hésiterons pas à prendre la parole sans toutefois la monopoliser. Nous suivrons une certaine méthodologie, on ne dira pas aller dans tous les sens et dans n'importe lesquels, si j'ose dire. Nous limiterons les commentaires subjectifs et esthétiques. Nous sommes à l'université, donc nous essayons de travailler scientifiquement. Nous n'utiliserons pas Internet, donc vous garez vos petites tablettes. Et enfin, vous le savez, connaisseurs s'abstenir, je veux dire par là que si vous savez déjà tout à l'apparition d'une diapositive, merci de ne pas immédiatement dire votre science, si j'ose dire, sur tel ou tel objet, parce que le but est quand même que dans un public où il y a peut-être des grands connaisseurs, des pas connaisseurs du tout, des moyens connaisseurs du sujet que nous allons évoquer, l'idée, c'est que bah, ceux qui, peut-être, savent le moins de choses, puissent, par leur regard, leur commentaire sur les objets, je dirais, apprendre des choses. Alors si tout de suite on dit ce que l'on sait, ça risque de couper dans l'œuf cette attitude pédagogique, ce qui serait évidemment dommage. Et en plus, je ne peux pas savoir à l'avance qui sait quoi, sur quel sujet, sur quel objet. Ça, c'est toujours le grand saut dans le vide. Voilà, donc je pense que vous connaissez maintenant bien nos petites règles, et que l'on peut commencer à aborder le sujet par lui-même. La première chose que je voudrais peut-être évoquer avec vous dans cette première séance de cette série, c'est rapidement, hein, sans entrer dans les détails, des questions chronologiques. On ne va pas aller dans le détail, encore une fois, mais quand on parle de l'Égypte ancienne, de l'Égypte antique, de cette culture qui nous fait tous rêver, hein, de combien de siècles parle-t-on ? Première chose, est-ce que vous avez une idée plus ou moins précise, hein, de l'étendue chronologique de cette civilisation égyptienne antique et tout à fait étonnante, fascinante, incroyable, etc., d'une part. Et d'autre part, est-ce que vous avez une idée de la manière dont s'organise cette chronologie ? Parce que l'Égypte antique, c'est pas, j'allais dire, une histoire monocorde du début jusqu'à la fin. Il y a des phases, des périodes. Est-ce que, là aussi, on peut essayer ensemble d'esquisser ça ? Alors, encore une fois, vous pouvez répondre un peu aux deux questions ensemble. Un, cette culture d'Égypte ancienne, combien de siècles recouvre-t-elle ? Première question. Puis deuxième question, comment s'organise, comment se séquence, finalement, cette culture d'Égypte ancienne, à travers quelle grande période ? Alors, à vous. D'abord, au niveau des, on peut commencer par le départ, hein, au niveau de l'extension de cette culture, combien de siècles, à combien de siècles correspond la culture d'Égypte ancienne ?
Plutôt les millénaires.
5 000 ans. À peu près 5 000 ans.
Les fameux 40 siècles.
Oui. Du haut de cette pyramide, voilà, 40 siècles, vous comptant. Hein. Bien. Donc 40 ou 50, hein, j'entends, j'ai entendu 5 000 aussi. Hein, ça fait quand même 10 siècles de plus. Hein. Ouais. 4 000, 5 000. Bien. Pardon.
25.
Qui dit mieux, mieux qui dit 3500. Oui, ah oui, oui, ah, absolument. Hein. Ouais. On est dans une salle des ventes. Hein. Donc 3500, 2500, 4000, 5000. Bon, en tout cas, c'est assez nombreux. Bien, on va voir après de manière un peu plus précise ce qu'il en est. Par ailleurs, est-ce que vous avez une idée de la manière dont s'organise cette antiquité égyptienne, hein, en Europe, vous savez, l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'époque moderne, l'époque contemporaine, bon, et je ne parle pas des périodes antérieures à l'Antiquité, mais qu'est-ce que vous diriez pour l'Égypte ancienne, comment s'organise, comment se séquence cette culture qui dure entre 2500 et 5000 ans ? C'est pas ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc on aurait, vous disiez, au niveau empire, trois périodes, c'est ça ?
Je suis pas sûr, mais c'est ce que
j'ai. Haut Empire, vous disiez ?
Moyen Empire.
Bas Empire. Et l'époque romaine.
Grec.
L'époque gréco-romaine. Pardon.
Et c'est divisé par dynastie.
Après, et à l'intérieur de ça, il y a des dynasties. Bon. Donc on aurait en gros quatre grandes périodes. Le Haut Empire, le Moyen Empire, le Bas Empire et l'époque gréco-romaine. Okay. Et à l'intérieur de ça, des dynasties. On est d'accord. Hein. Et ça sur entre 2500 et 5000 ans. Ça vous va ? J'ai résumé à peu près ce qui vous convient, enfin, ce que vous avez dit. Bah, écoutez, c'est pas mal. Hein, on est, je crois, assez proche de ce que, aujourd'hui, l'égyptologie décline au niveau de la chronologie. Je vous ai mis ce... Ah, bon, bah, écoutez, c'est bizarre. Hein, parce que moi, sur mon écran, c'est parfait. Bon. Bah, écoutez, vous verrez mieux quand vous regarderez... ça, c'est bizarre, hein, que ça... fonctionne pas. Oh, vous voyez quand même un tout petit peu. Enfin, je vais vous le commenter. Alors, la chronologie. Il y a bel et bien, vous le disiez, hein, trois grandes périodes, et même quatre, c'est-à-dire non pas le Haut Empire, mais plutôt l'Ancien Empire. Hein. Haut Empire, ce serait pour d'autres cultures. Donc, l'Ancien Empire, puis effectivement le Moyen Empire, et le Nouvel Empire, et non pas Bas Empire. Bas Empire, ce serait plutôt pour l'époque romaine. Hein, le Bas Empire romain, voilà. Hein, l'époque romaine, c'est le Haut Empire, le Bas Empire. Là, on est dans l'Ancien Empire, le Moyen Empire, le Nouvel Empire, effectivement, qui constituent les trois périodes, je dirais, qui sont au cœur de cette culture de l'Égypte ancienne. Après, il y a ce qu'on appelle la basse époque, alors qui comprend plusieurs périodes et qui se termine en particulier par l'époque ptolémaïque et romaine, c'est-à-dire en gros l'époque grecque, hellénistique et romaine. Hein. Donc vous aviez raison, hein. On a finalement quatre grandes phases, hein. Ancien Empire, Moyen Empire, Nouvel Empire, basse époque. Il ne faut pas quand même oublier, en deçà et au-delà, deux autres périodes qui ne sont pas tout à fait secondaires. Il y a tout à fait au départ ce qu'on appelle les époques la période ou l'époque prédynastique, qui porte bien son nom, hein, c'est avant le début des dynasties elles-mêmes. Et puis enfin, il y a l'époque archaïque, qui est juste avant l'Ancien Empire, qui marque finalement le début de ce que sera... la civilisation de l'Égypte antique classique. Et puis enfin, il y a à la fin de cette chronologie l'époque copte, Ben, ça, c'est peut-être ce qu'on connaît le moins mal, entre guillemets, hein, puisque des coptes, il y en a toujours aujourd'hui en Égypte. Hein. Mais enfin, la grande époque copte, c'est de la fin de l'Antiquité vers le milieu du Moyen-Âge, 4e, 9e siècle. Alors, l'époque copte est à la fois très dépendante de la culture de l'Égypte antique, et en même temps, il y a des tas de choses nouvelles qui se passent, ne serait-ce qu'au niveau religieux. Hein, les coptes sont des chrétiens, vous le savez. Donc, on est là dans une culture qui n'est plus vraiment la culture d'Égypte antique, même si elle lui doit beaucoup, si vous voulez. Hein. Donc, je pense que ce tableau que vous voyez mal, mais que vous verrez bien sur votre ordinateur quand vous le passerez, permet, je pense, de bien confirmer ce que vous disiez. Quatre périodes, Ancien Empire, Moyen Empire, Nouvel Empire, Basse Époque, en deçà, l'époque pré-dynastique et l'époque archaïque, et au-delà, l'époque copte. Donc je crois qu'il faut qu'on garde, dans toutes les séances qu'on va voir, cette espèce de canevas qui n'est pas très compliqué finalement, hein, et qui nous permet vraiment globalement d'avoir une idée de cette culture, qui dure effectivement plutôt, non pas 2500, non pas 5000, mais plutôt 3500, 4000 ans, si on veut. Hein. Tout dépend si on compte l'époque copte ou pas. Voilà. Mais on est effectivement autour de 40 siècles, hein, les fameux 40 siècles de Bonaparte, qui finalement sont assez justes. Hein. On est là dans une culture qui a un développement très long. Hein. Je rappelle quand même que notre culture à nous, j'allais dire culture occidentale, a la moitié de celle-là, hein, en termes de chronologique. Hein. Nous, c'est en gros 20 siècles. Hein. Là, on va parler de 40 siècles, à peu près, c'est du double. Hein. Je crois que c'est très important de se mettre en tête, parce que on est là vraiment devant une culture absolument colossale, énorme. Enfin, ceux qui sont allés en Égypte l'ont vu mieux que moi. Hein. Une culture absolument très très longue, très étonnante, d'un dynamisme et vraiment incroyable. Très, encore une fois, c'est une période extrêmement allongée. Et je pense qu'il faudra bien qu'on garde cette inécrogique en tête durant toutes nos séances. Ok ? Bien. Alors, je vous propose qu'aujourd'hui, on commence tranquillement par un objet que je vais vous montrer, qui va nous permettre d'aborder, par un biais, cette culture de l'Égypte antique. Et l'objet que je voudrais vous montrer, alors j'espère que vous allez le voir, et que le problème qu'on a eu, c'est... Oh là, bah plus ou moins bien, je ne sais pas ce qui se passe, c'est bizarre. Hein. Hier, on n'avait pas du tout ce problème. Hein. Hier, c'était très bien. Là, aujourd'hui, c'est moyen. Pas pourquoi. Bon, vous voyez quand même à peu près ? Bon, je ne sais pas pourquoi. Hein. Hier, c'était très très bien, très bon, sans aucun problème. Là, c'est moyen.
Tendance, c'est bien branché.
C'est bizarre, hein ? C'est le même ordinateur, c'est... Voilà, je ne sais pas pourquoi. Bon. C'est très très bizarre. Qu'est-ce qui... Vous disiez quoi ?
La lampe du vidéo.
Ah, peut-être. Ouais, là, c'est très bizarre. Bon, enfin, vous voyez quand même à peu près.
Bien.
Alors, ben justement, que voyez-vous ? Alors, vous savez que, puisque nous avons une certaine méthode et que nous avons vu dans nos règles que nous allions tenter de l'appliquer, on va commencer par voir la matérialité de l'objet que vous avez sous les yeux, de quoi s'agit-il techniquement, hein ? Matière, hauteur, que sais-je encore. Et puis après, on essaiera de décrire un peu l'objet que vous avez sous les yeux. Alors d'abord, sur un plan matériel, qu'est-ce que vous avez sous les yeux ? Une statuette
en pierre,
ok. Doré en pierre dorée. Alors l'image est vraiment pas bonne. Hein. Bon.
Avec des hiéroglyphes,
ok. Vous avez une idée de la taille à peu près de voir cette statuette ? À vue de nez, hein, bien sûr.
Pas très grand.
15 cm.
Donc on aurait une petite statuette en pierre. Vous avez dit pierre.
Moi, je pense que c'est
en bois. En bois, vous, plutôt ? Donc une statuette en pierre ou en bois, couverte de hiéroglyphes, d'une dizaine de centimètres de haut, quelque chose comme ça. Ça vous va, ça ? C'est bien. Cette statuette, on verra après ce qu'il en est, hein. Cette statuette, elle représente quoi ?
Un pharaon,
qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un pharaon ?
La fausse barbe. Qu'est-ce qui tient dans la main ? La coiffure, le
cache-tête. Alors, la coiffure vous fait dire que c'est un pharaon, c'est ça ?
Oui.
Ce qu'il tient dans les mains. Qu'est-ce qu'il tient dans les mains ?
Un fléau.
Une sorte de fléau.
Oui, les deux bras croisés.
Il a les deux bras croisés, donc tout ça, ça fait que c'est un pharaon. La perruque, les bras croisés, le fléau, la fausse barbe, tout ça, c'est pharaon. Ok ? Donc, on a la représentation d'un pharaon debout, hein, dans une statuette en pierre de 10 cm de haut à peu près, hein, couvert de hiéroglyphes. En pierre ou en bois, on est bien d'accord.
Ça peut être aussi le haut d'un sarcophage.
Ou alors un couvercle de sarcophage. Alors là, on serait dans quelque chose de plus grand. Alors, ou sur un mini-sarcophage.
Mais là, ça serait plus grand, oui.
Donc, soit la représentation d'un pharaon, donc une statuette, hein, soit un couvert de sarcophage, mais là, peut-être 1m50 quand même, pour un petit pharaon, un peu râblé. Hein, d'accord ?
Ça ne peut pas être une petite amulette qui était dans le, au milieu des...
Alors, vous éveillez plutôt donc un petit objet, hein, ces amulettes, c'est-à-dire ces objets que, qui accompagnaient volontiers, notamment les momies, par exemple.
Oui. Coincé
dans les bandages. Donc vous voyez plutôt une amulette, quelque chose qui accompagne le mort et que l'on met dans les bandages de la momie. Ok ? On va voir tout ça. Je vais peut-être vous montrer une autre photographie qui va vous montrer la même statuette sous les différents aspects, sous les différents côtés. Vous voyez bien là ?
Oui.
Bien. Alors. Voilà, la statuette. Vraiment, c'est très mauvais. Aujourd'hui, alors, hier, c'était impeccable, vraiment merveilleux. Là, on a l'impression d'un truc saloupé, quoi. C'est très curieux. Bon, enfin, vous voyez, j'espère, à peu près. Alors, que voyez-vous ?
C'est pas un couvercle.
Non, mais c'est pas un couvercle. Puisqu'il y a un dos qui est, effectivement... encore que, dans les couverts sarcophages, généralement, le dos de l'intérieur de sarcophage, y compris le dos, est souvent décoré aussi. Hein. Mais bon... On a l'impression quand même de quelque chose en relief. Donc, a priori, effectivement, on n'est pas devant un sarcophage. Hein. Est-ce que vous avez des éléments nouveaux qui viennent un peu compléter la vision, que vous avez, la description que vous aviez faite auparavant ?
Il y a beaucoup d'hiéroglyphes partout qui sont peut-être des formules un peu rituelles pour accompagner un mort, par exemple.
Oui. Donc des hiéroglyphes partout qui pourraient être des formules rituelles pour accompagner un mort, très bien. Et est-ce qu'au niveau de la représentation, vous voyez des choses que vous n'auriez pas évoquées encore ? Moi, je vois deux choses dont vous n'avez pas parlé et qui me paraissent importantes pour décrire ce personnage.
Les membres intérieurs sont...
Il est momiforme.
Voilà, il est momiforme. Hein. C'est-à-dire que vous n'avez pas un personnage avec deux jambes, deux bras... Il est momiforme. Alors, il y a effectivement les bras croisés, les mains qui sortent d'espèces de bandelettage qu'on peut imaginer, hein, puisqu'il est momiforme. Donc, ça, c'est un premier élément. Hein. Il est effectivement entièrement bandeletté, pourrait-on dire, hein, momiforme. Seules les mains et la tête sortent d'espèces de bandelettage, on va dire ça, hein, qui effectivement évoquent les dimensions funéraires. Bien. Ça, c'est un premier élément qui me paraissait important à ajouter à ce que vous avez dit. Hein. Il y a un deuxième élément que vous n'avez pas évoqué encore.
On voit une grille.
On voit une grille. Hein.
C'est pas la table où il faisait l'embaumement.
Une grille, là. Donc la grille dont vous parlez, c'est ça, on est bien d'accord. Hein. Hein. Donc ici pourrait être une évocation de la table de l'embaumement. Donc on serait décidément toujours dans cette évocation funéraire. Hein ? Ça vous va, ça ? Ouais, non ? On a le droit de ne pas être d'accord entre nous, hein. C'est pas interdit, hein.
On n'arrive pas bien à voir les yeux.
Les yeux ?
Ils sont ouverts ou fermés ?
Moi, je dirais plutôt ouverts, mais... C'est pas plus ou moins visible. Encore moins sur cette... Alors, attendez, je vais vous dire, moi, ce que je peux vous en dire là... Plutôt ouvert.
Avec un sourire.
Tiens, cette statuette, elle se trouve où, à votre avis ?
Au Caire.
Au Caire. Au Caire ? Au Caire. Bien.
Au Louvre.
Au Louvre. Bien au Louvre, où il y a effectivement des collections égyptiennes considérables. Hein. Bien. Alors, ben, reprenons peut-être ça, ou alors... Oui, non. Reprenons déjà ça. Donc, nous aurions, je résume tout ce que vous avez dit, hein, la représentation dans une sculpture qui quand même risque d'être assez petite. On avait évoqué un temps l'idée d'un couvercle de sarcophage. On a, je crois, abandonné cette idée parce qu'on a vu que l'arrière de ce personnage était plutôt, j'ai la troisième photo, celle sur fond bleu, en relief. Donc, a priori, ça ne peut pas être un sarcophage. Donc, on est plutôt devant une statuette d'une 10-15 centimètres de haut peut-être. En tout cas, un objet d'assez petite dimension, en pierre ou en bois. Une statuette qui représente un personnage momiforme avec la tête et les mains dégagées. Une figure qui est couverte d'une coiffe que vous avez qualifiée de pharaonique, de royale. Hein. Vous avez évoqué la barbe du personnage. Vous évoquez également les deux éléments que le personnage, les deux attributs que le personnage tenait dans sa main et qui qualifient sa dimension royale, c'est-à-dire pharaonique. Un personnage qui également porte à l'arrière, sur son dos, une sorte de grille qui pourrait être l'évocation de la table funéraire sur laquelle est réalisée la momification. Hein. Est-ce que j'ai résumé ce qui manque des choses dans mon résumé ?
Mais s'il y a plusieurs couleurs.
Plusieurs couleurs. Alors, donc j'ai pas trop oublié. Hein. Alors, au niveau des couleurs, ben, la diapositive sur fond bleu, qui est la moins mauvaise, vous montre, c'est bien ce qu'il en est. C'est-à-dire qu'on a effectivement une sorte de jaune-brun qui n'est pas de l'or. Hein. On a parlé d'une couleur dorée. C'est plutôt un ocre jaune un peu vif, si vous voulez. Hein. Et puis, les hiéroglyphes qui sont brun-noir, on va dire. Hein. Voilà. Donc, c'est bicolore. Hein. Voilà. Alors, est-ce que la description que je vous ai dite vous va ?
Vous n'avez pas parlé de la matière.
Si on a dit bois ou pierre.
Hein.
Alors, on va peut-être continuer avant que nous allions plus loin. Oh, voilà. Je vais vous montrer ça. C'est vraiment très mauvais. Mais bon.
C'est le développement des hiéroglyphes.
Voilà, c'est ça. Ce que vous avez là à droite, c'est le développement des hiéroglyphes que vous voyez sur la statuette à gauche. Hein. Et à votre avis, ça a été un petit peu évoqué, hein, j'ai oublié de le dire dans mon résumé d'ailleurs, quel pourrait être le sens de ces hiéroglyphes. Je crois que vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Hein. Vous disiez que ces hiéroglyphes pouvaient être des formules plus ou moins funéraires. Je résume à peu près ce que vous avez dit.
Hein.
Est-ce que vous avez une idée, par exemple, est-ce que vous pourriez... moi, je ne lis pas les hiéroglyphes, hein, mais peut-être que parmi vous, il y en a qui savent le faire. Hein, pourquoi pas hein.
Hein
et est-ce que donc, en lisant ou non ces hiéroglyphes, vous pourriez imaginer le type de phrase qui pourrait être contenue dans un texte comme celui-ci ?
La vie du défunt ?
Quelque chose qui serait un résumé de la vie du défunt.
Il doit y avoir son nom, non ?
Alors, avec son nom, donc. Hein. Donc, un résumé de la vie du défunt avec son nom.
C'est mérite.
Pardon ?
Ses vertus, ses mérites.
Ses vertus, ses mérites.
Théorisation de le faire rentrer dans le glas.
Ouais, quelque chose donc qui est une sorte de formule qui permettrait, cette espèce d'injonction, le faire rentrer dans le glas. Ouais.
Ayez une bande verticale à gauche.
Oui.
Qui semble très différente des quatre.
C'est ça.
C'est
qui correspond d'ailleurs à son dos. Hein. Vous savez, dans la. Vous l'avez peut-être vu tout à l'heure. Hein. Alors, que je vois à peu près. Voilà. Vous voyez qu'il y a sur le dos une bande de hiéroglyphes verticale, ce qu'on appelle souvent le pilier, hein, que l'on voit très souvent dans les statuettes, ou les statues d'ailleurs égyptiennes, une sorte de pilier, et l'inscription effectivement suit ce pilier arrière.
Et qui correspond à quoi ?
Vous avez ça dans de très très nombreuses sculptures égyptiennes. C'est plus ou moins comment vous dire, très souvent quand vous faites une sculpture, si vous dégagez complètement la sculpture, surtout si elle est grande, elle a du mal à se tenir, si vous voulez. C'est d'abord un élément technique qui permet à la sculpture, si vous voulez, d'avoir une sorte d'aplomb. Hein. On voit ça même dans la sculpture gréco-romaine, hein, où c'est généralement fait d'une manière moins... J'allais presque dire moins linéaire que ça, hein, mais un élément qui permet d'abord à la sculpture d'avoir de tenir mieux, techniquement parlant. Hein. Et ça a été, je dirais, englobé dans la culture égyptienne pour devenir une sorte d'élément constitutif des statues ou des statuettes, comme c'est que vous voulez.
Et les hiéroglyphes verticaux correspondent à quoi à ce moment-là ?
Par rapport à ce que je vais, l'inscription que je vais vous dire tout à l'heure, ça, je ne saurais pas vous dire dans quel sens ça va. On va voir, je vais vous dérouler l'inscription tout à l'heure, vous dire, on va voir tout à l'heure, et l'inscription hiéroglyphique et la traduction en français, dans quel sens ça va, ça, je suis incapable de vous le dire. Ça, je ne peux pas vous le dire.
Et c'est systématique sur la plupart des statues ?
C'est très fréquent. Vous avez très souvent, c'est toujours le cas, hein, mais vous avez souvent une sorte de pilier arrière avec une inscription verticale et des lignes horizontales, voilà, qui, elles, recouvrent la statue. OK ? Ou la statuette. Bien. Alors, est-ce qu'à votre avis, on a à peu près épuisé ce qu'on pouvait dire là-dessus ? Est-ce que vous voyez d'autres choses à rajouter avant qu'on regarde un peu plus près ce qu'il en est ou ce qu'il n'en est pas ? Parce qu'il y a peut-être, dans ce que vous avez dit, des choses justes, mais il y a peut-être des choses qui ne le sont pas. Non, c'est bon ?
Ouais.
Bien. Alors, d'abord, au niveau de la matérialité de l'œuvre, vous n'êtes pas tombé sur la taille. Hein. On est devant une pièce effectivement pas très grande, hein, qui fait une dizaine de centimètres de haut, vous avez bien vu. Hein. Donc on est dans ces statuettes de petite dimension. Vous parliez de bois, ça n'est pas du bois. Vous parliez de pierre, ça n'est pas de la pierre. C'est en fait de la terre cuite. Hein. En fait, c'est ce qu'on appelle une faïence, un type de faïence un peu particulier. On appelle ça quelquefois de la proto-faïence. Les Égyptiens sont les premiers à avoir, dans le bassin méditerranéen, avec peut-être d'autres cultures du Proche-Orient, à avoir utilisé cette matière, cette technique, qui est celle que l'on appelle en Occident la faïence, mais qui est arrivée en Occident bien plus tardivement. Hein. Alors, c'est une faïence un peu particulière qui ne ressemble pas aux faïences que vous avez chez vous dans ces assiettes du 18, 17, 19e siècle que vous possédez peut-être. On est dans quelque chose d'un peu différent. On appelle d'ailleurs souvent cette faïence de la frite. Non pas que ça ressemble à une frite, mais parce que la texture est un peu spéciale, si vous voulez. C'est une faïence un peu grenue, aussi bien à l'intérieur, dans la pâte même, qu'à l'extérieur. Ça vient notamment du fondant, le natron, qui est utilisé pour la réalisation de ces faïences. Hein. En tout cas, vous êtes là devant une statuette en terre cuite, et donc en faïence ou en proto-faïence, selon la terminologie que vous souhaitez utiliser. Alors, vous avez assez bien vu, je crois, et assez bien décrit l'objet. On est devant un personnage qui est en l'occurrence un personnage masculin. Ça, vous ne l'avez pas dit. C'est un homme que vous avez là. Hein.
C'est
des crânes ouverts.
Pardon ?
Pardon ? Absolument. La barbe est de toute façon une barbe postiche, hein, qui n'est donc pas une barbe réelle, et qui divinise celui qui la porte. Hein. Donc, et ça peut être l'attribut féminin sans problème. Hein. Mais en tout cas, là, on a quand même un personnage masculin qui est effectivement momiforme, ça on l'a bien vu. La tête et les mains seules sortent d'espèces de paquets momifiés. Vous avez également bien dit qu'il avait une coiffe. En revanche, vous l'avez qualifié de pharaonique. Elle n'est pas particulièrement. Hein. C'est une perruque tripartite avec le dessus et les côtés. C'est une perruque, je dirais, normale. On va avoir des quantités comme ça qui ne sont pas particulièrement pharaoniques. Nous verrons des coiffes pharaoniques. Vous verrez qu'elles sont tout à fait différentes. Hein. Là, c'est une perruque, certes. Donc, ça n'est pas la chevelure réelle du personnage, si vous voulez. Mais ça n'est pas spécifiquement lié à la figure du pharaon. Nous verrons tout à l'heure des coiffures pharaoniques tout à fait caractérisées. Hein. Vous disiez également que au-delà de la barbe et de la perruque, et encore une fois, nous avons vu que cette coiffe, pardon, qui est une perruque, n'est pas une coiffe pharaonique, et que la barbe n'est pas non plus hein, l'apanage des seuls pharaons. Hein, la barbe est un élément qui divinise le défunt, qui n'est pas forcément un attribut pharaonique. Vous aviez dit, c'est un pharaon parce que ce personnage a les attributs de pharaon. Hein. Il a les bras croisés sur la poitrine, et il tient les attributs pharaoniques. Alors, vous avez cité un des attributs pharaoniques. Souvent, les pharaons, en effet, ont des attributs. Hein, vous avez parlé d'un flagellum, je crois, c'est ça que vous disiez. Hein, voilà. Alors, vous n'avez pas cité l'autre. Quel est l'autre attribut ?
C'est un crochet.
Voilà, une sorte de sept crochets, absolument. Hein. Alors là, qu'est-ce que vous voyez, à vrai dire, comme attribut ?
Un
flagellum.
Vous voyez le flagellum, c'est-à-dire le fouet. Ce serait ça, là.
Oui.
Hein, donc on voit là, autrement dit aussi. Hein. Et alors là, ce serait le crochet sur l'autre côté. Non, alors on ne voit pas bien parce que la céramique elle-même, ces céramiques quelquefois ont été cuites de manière plus ou moins bonne. Alors la photographie en plus, la projection n'est pas excellente, mais ça ressemble pas trop à un crochet. Alors, on a l'impression d'avoir la même chose que de l'autre côté, sauf que c'est plus abîmé, si vous voulez. Hein. En fait, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit ni du flagellum, ni du crochet, ce que vous voyez là. Ce que vous voyez là est en fait, et vous le voyez aussi bien ici que là-bas, encore une fois, c'est attribué, pardon.
Une équerre.
Alors, ça pourrait faire penser à une équerre. Dans ces cas-là, ça évoquerait quoi ?
Un architecte.
Donc ça pourrait être une équerre, mais ça n'est pas une équerre.
Bon, bah, tant pis.
Qu'est-ce que ça peut être ?
Un chasse-mouche.
Un quoi ?
Un chasse-mouche.
Un chasse-mouche. Oh, hier, on en a vu des chasse-mouches. Hein. Ceux qui étaient là hier, ils en ont vu des chasse-mouches. Ils en ont gobé des mouches. Hein. D'ailleurs, pas gobé, parce que souvent, nos louhan d'hier, ou nos arat, hein, ou nos rakan, rappelez-vous, hein, avaient beaucoup de chasse-mouches. Hein. Mais non, là, il ne s'agit pas de chasse-mouche. Et ça peut être. Pas une équerre, pas un sceptre, pas un flagellum. Donnez votre nom de chat.
Quelque chose lié à sa profession ?
Oui, ou en tout cas à sa fonction.
Sa fonction, d'accord.
Bon, c'est pas une tablette, non ?
Un objet pour écrire ?
Un objet pour écrire. Donc il aurait finalement dans ses mains un objet pour écrire. Et la tablette, ce serait peut-être d'ailleurs ce que vous identifiez avec cette grille-là. Non ? Je sais pas. J'essaie de lancer des pistes, non ? Non, ça vous va pas, ça.
Un charpentier.
Ben oui, mais ça doit être un instrument de mesure.
Un instrument de mesure, un peu comme l'équerre.
De musique.
De musique. Ah, quelques lyres.
Une harpe.
Ben, je vois qu'il y a de l'imagination, en tout cas. Hein. Équerre, instrument de mesure, instrument pour écrire, harpe. Oui, on a... Hein. Sauf que c'est rien de tout ça.
Ah bon.
Ah, je vous fais mariner un peu.
Qu'est-ce que ça peut être ? On ne voit pas grand-chose non plus.
Et celui de gauche, c'est la même chose que celui
de droite ? Ah, c'est le même. C'est le même, vous tournez autour, simplement. C'est le même objet. Hein.
Sur le personnage, il y en a un qu'on voit bien, là, à droite, si on prend la première photo, on voit bien à droite, sur une espèce de triangle,
oui.
On ne voit pas trop ce qu'il y a de l'autre côté.
Ben, de l'autre côté, c'est plus abîmé, si vous voulez. Vous, en fait, vous aviez la même chose. Vous devinez peut-être là le départ,
oui.
Et là la partie horizontale et l'autre partie. Voilà. C'est beaucoup plus moins lisible, si vous voulez. Mais c'est la même chose. Alors je vous mets un petit peu sur la voie, en vous disant, ça va vous aider beaucoup, hein, que cet attribut que vous avez là, et vous aviez le même de l'autre côté, va avec cette chose qu'il y a à l'arrière. Ça vous aide. Là, vraiment, je vous arrange. Là.
C'est un comptable ?
Un comptable, donc quelqu'un qui, oui, il aurait donc une sorte de calculette, enfin.
Tableau Excel.
Le tableau Excel, c'est ça.
Tableau Excel.
En fait, il a son ordi dans son sac à dos.
Si c'est une table de momification, peut-être que c'est un instrument de momification.
Ah, donc soit, alors décidément, on passe de la musique à la comptabilité, la comptabilité à la momification. Remarquez, c'est à peu près la même chose. Donc on est... oui, on est dans des tas d'idées, là. Sauf que c'est rien de tout ça.
C'est pas un jeu.
Pas un jeu non plus. Ça y fait penser, c'est vrai.
De toute façon, s'il a cette fameuse barre de postiche pour, entre guillemets, lui donner une grande importance, ça veut dire que c'est un haut personnage. Ça ne peut pas être n'importe qui mette ça.
Ah ben, de toute façon, à votre avis.
Les barbes, c'est les dieux et les pharaons.
Et ouais, ouais, donc c'est peut-être un dieu. Avec sa représentation, une divinité.
Donc ce serait un dieu.
Une divinité.
Pour essayer de je ne vais pas vous faire pointer 50 ans, mais pour essayer quand même de trouver ce que sont ces deux attributs qui sont fondamentaux pour comprendre ce que c'est que ce personnage, il faut envisager une des activités fondamentales à la civilisation d'Égypte antique, qui fait qu'elle a pu vivre, L'agriculture.
C'est un géomètre.
Alors, un géomètre, on est toujours donc dans l'idée de la...
mesure.
J'allais dire de la cadastration, de la mesure. Hein. Pourquoi pas? Simplement, si vous avez des géomètres, ils vont vous calculer la dimension de vos champs. C'est pas ça qui va vous faire manger. Hein. Alors voilà. Ce que vous avez là, en fait, c'est une houe. C'est-à-dire que cet instrument que vous avez là, ou là, c'est une houe. C'est-à-dire ça. Vous voyez à droite, une houe. Voilà, qui a été découverte en Égypte. Hein, vous en avez comme ça des états. Hein. L'Égypte, vous savez, avec son climat particulier, les conditions qui sont les siennes, a permis à beaucoup d'objets qui ailleurs, notamment sous le climat, disparaissent, hein, d'être conservés. Et donc, vous voyez à droite une houe. Eh bien, cet objet que tient le personnage, que vous voyez ici de face ou là de profil, c'est une houe. Vous voyez qui tient sa houe. Hein, la houe qui sert à biner le sol, si vous voulez. Hein. Alors, et pourquoi est-ce qu'il a une houe? Et même deux, puisqu'il tient une houe dans l'autre main aussi.
C'est un agriculteur.
Que c'est un agriculteur. Et donc, en tout cas, si ça... on voit bien, effectivement, que c'est un agriculteur, ou que c'est quelqu'un qui... C'est une statuette dont la fonction est de faire de l'agriculture, ce qui n'est peut-être pas tout à fait pareil. Vous me suivez?
Oui.
Hein, donc, soit c'est un agriculteur, en gros un paysan, qui est représenté ici, soit quelqu'un à qui on fait jouer le rôle d'un paysan.
Un protecteur de...
Ou, pourquoi pas, une figure qui est protectrice de... Ok. Et alors, dans ces cas-là, ce fameux, cette fameuse grille que vous avez vue tout à l'heure, au dos, qu'est-ce que ce serait? Le champ.
Le parcellaire.
Une évocation du parcellaire, du champ dans lequel on, le cultivateur travaille?
Non.
Ah, pardon?
Un calendrier?
Non plus. Ah, un calendrier sert aux semailles, etc. Non. On se rapproche un peu.
Canot d'irrigation?
Non plus.
Quelque chose qui sert à
vanner
le grain?
Ah, on approche, mais c'est pas tout à fait ça encore. C'est beaucoup plus simple.
Une herse?
Non plus. C'est vrai que ça ressemble à ça.
Ouais, ça ressemble. Un tamis, non?
Un tamis non plus. Mais c'est encore plus simple que ça. Beaucoup plus basique.
Les différents silos où ils mettaient le grain?
Pardon,
des silos où ils mettaient le grain.
Ah, les silos, la présentation des silos. Non plus.
Un instrument qui sert à la récolte?
Alors, ça peut à la récolte ou en amont?
Au semailles.
Quand vous semez, vous arrivez avec vos grains, là, comme ça, dans les mains, puis vous semez comme ça? Il faut un sac. Eh bien, c'est le sac.
Oh,
le sac à grains. Ce que vous avez là, c'est le sac à grains. Il ne ressemble pas forcément à
sac
à grains.
C'est le tissage du sac, alors.
Pardon, c'est le tissage du sac. C'est le sac à grains. Parce que le gars qui est là, hein, il a le grain qu'il va semer, et puis la binette, la houe, qui lui sert à faire les cils.
D'accord.
Voilà. Donc vous avez un personnage qui a les instruments nécessaires au béaba de la culture. La culture avec un petit C, si j'ose dire. Hein. La cultivature, si j'ose dire. Hein. Voilà. Alors, donc vous avez un personnage qui a les instruments nécessaires pour cultiver, pour créer ce qui est obligatoire pour l'homme pour vivre, tout simplement. Donc ce personnage momiforme, avec les différents attributs que l'on vient de voir, il a la fonction d'un cultivateur.
Yeah. Est-ce que ce ne serait pas une des... Je crois que dans certains caveaux, il y en a des quantités faramineuses.
Le nom a été dit tout à l'heure. Voilà.
Qui servait à accompagner le défunt, pour qu'il ait à sa disposition tout ce qu'il faut pour vivre dans l'au-delà.
Exactement. C'est-à-dire que cet objet est ce que vous avez évoqué. Redites-nous le mot, peut-être. Un ouchepti, c'est-à-dire, effectivement, une statuette qui a pour but d'accompagner le mort dans l'au-delà. Autrement dit, le mort, il est accompagné dans l'au-delà par une ou plusieurs statuettes qui ont pour but, parce que le mort, quand il est mort, il n'est plus très vigoureux pour faire de l'agriculture, si vous voulez. Hein. Donc on lui donne un certain nombre d'aides, hein, qui sont là pour, à sa place, cultiver. C'est pour ça que je disais que ce n'est pas un paysan qui est là. C'est quelqu'un qui en a la fonction. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Le personnage qui est là, dont je peux vous dire, parce que de toute façon, ça n'apporte rien, qui s'appelle Hippou. Eh bien, le hippou que vous avez sous les yeux, IPOU, hein, ce n'est pas un agriculteur, enfin, sans doute pas, mais c'est quelqu'un dont la représentation, vous voyez là, mais qui n'est pas sa représentation, qui est la représentation de son nouchepti, hein, c'est-à-dire de son double funéraire, on pourrait dire, hein, qui, lui, a comme fonction de permettre aux morts d'avoir dans l'au-delà de quoi manger, de quoi subvenir à ses besoins. D'accord ? Ce mot de ushepti est un mot qui veut dire, la traduction, hein, c'est desservant. Ouais. Desservant en égyptien ancien, c'est ushepti. Hein. Alors, quelquefois, on dit aussi shawapti. Shawapti, ushepti, c'est le même mot. Hein. Voilà. Quelquefois, d'ailleurs, les égyptiens anciens disaient shapti. Hein. Donc, pas ushepti ou shawapti, mais shapti, tout simplement. Hein. Voilà. Donc, les ushéptis sont des figurines funéraires. Vous parliez tout à l'heure, Manal, d'ailleurs, de ces petites amulettes que l'on mettait dans la tombe et qui accompagnaient le mort. On pourrait dire quelque part que ça en fait partie. Alors, sauf que vous, ce dont vous parliez, c'est des amulettes que l'on emballait avec la momie. Hein. C'est vrai que très souvent dans les momies, quand on les déballe, du moins quand on les a déballées, parce qu'on déballe beaucoup moins de momies aujourd'hui que jadis, on trouve des amulettes, hein, qui sont là pour accompagner en permanence le mort. Donc là, ce n'est pas tout à fait la même chose, hein, mais c'est des objets donc, qui sont plus gros, les amulettes sont plus petites, mais c'est un élément qui vient décidément servir le défunt dans sa tombe. Quoi, hein. Alors, on va peut-être jeter un petit coup d'œil à l'inscription, pour que vous voyez quand même ce qu'elle dit. Je trouve que c'est utile pour bien comprendre quand même, hein, ce qui est indiqué. Oh, on ne voit vraiment rien, c'est terrifiant. Hein. C'est vraiment pénible. Hein. Bon. Alors, l'inscription, mais je ne peux pas vous dire dans quel sens elle va, là, je suis incapable de vous le dire. Hein. Je crois que ça commence par là et qu'ensuite ça va là, mais je ne suis pas sûr. Donc je vous lis. Hein. « Que soit illuminé l'Osiris hippou juste, il dit « Ô Chapti, que voilà, si l'on te recense et si l'on te dénombre, pour accomplir tout travail dans le domaine du Dieu, sois éveillé. Hein, » vous avez donc, je pense à peu près comme si l'on était, « Que soit illuminé l'Osiris hippou. » Alors, Osiris, ça vous dit quelque chose ? C'est un dieu égyptien. On reviendra sans doute dans les séances qui viennent sur cette question d'Osiris, hein, aujourd'hui ou plus tard, on verra. Mais gardons peut-être en tête que là, ce hippou, on l'appelle l'Osiris hippou. C'est-à-dire qu'on lit ce nom de Dieu à ce mortel qui est mort, mais donc qui devient Dieu. C'est ce qu'on appelle l'Osiris hippou. On est d'accord, hein ? On le divinise. L'Osiris hippou juste, il est juste, c'est plutôt favorable. Tout à l'heure, on a dit que ces inscriptions pouvaient contenir une dimension de, comment dire, d'évocation de la personne. Ben là, il dit juste, c'est un bon gars. Écoutez, là, il dit « Ô Chapti ». Chapti, hein, je vous l'ai dit, ça veut dire « Ushepti » ou « Shawapti ». Un Chapti, c'est ça, c'est un Ushepti. D'accord, hein ?« Ô Ushepti », si vous voulez, que voilà, « si l'on te recense et si l'on te dénombre, pour accomplir tout travail dans le domaine ». Vous voyez, le Chapti, il doit accomplir tout travail dans le domaine. L'Ushepti, c'est quelqu'un qui bosse, hein, tout le temps. De toute façon, ce n'est pas le mort qui va bosser, il est mort. C'est donc les ushéptis qui travaillent à sa place. Et donc, il doit être éveillé. C'est pour ça qu'il a failli marquer « Sois éveillé », parce que l'ushépti, en permanence, il doit travailler pour le mort. D'accord ? Alors, cette statuette, elle est intéressante parce que c'est donc un ushépti. Des ushéptis, dans n'importe quel musée, il y en a quelquefois. Enfin, je ne connais pas un musée qui n'en ait pas un. Ici, dans toute la région, tous les musées ont moins un ou deux ushéptis. Je suis sûr que certains d'entre vous en ont chez vous. Ça, c'est des objets qui ont été tellement fréquents sur 40 siècles d'histoire, ou 35, comme vous voulez. Voilà, les ushéptis ont été produits en de très, très grandes quantités. C'est vrai que les ushéptis, il y en a partout. Celui-là, on m'a dit qu'il était au musée du Caire, ou bien au musée, du Louvre. Hein. OK ?
Il va être au temps bientôt.
Il est au musée vivant de Nantes à Chalon-sur-Saône. C'est assez touchant, vous l'avez tous vu. Si vous êtes allé au musée de Chalon-sur-Saône, bon voilà, on ne va pas au musée de Chalon-sur-Saône. Alors on ne connaît pas l'objectif du musée de Chalon-sur-Saône. Si vous y allez, c'est possible. Il y a quelques années, il y a eu d'ailleurs, il y a 4-5 ans, hein, une exposition des antiquités à la fois grecques, romaines, mais non locales, hein, égyptiennes ou proche-orientales du musée de Nantes, et c'est d'où j'ai dit, était présentée. C'est donc une œuvre qui n'est pas exceptionnellissime, si vous voulez, mais qui est intéressante, parce que vous voyez qu'à partir d'une petite statuette comme ça, on peut dire beaucoup de choses et comprendre énormément de choses de la culture égyptienne. Hein. Alors je suis désolé, vraiment, on ne voit rien, c'est terrible, je ne sais pas ce qui se passe, mais bon. Alors, je voudrais qu'on continue un petit peu là-dedans, parce que le fait de travailler sur les Ouscheptis va nous permettre d'entrer plus avant dans cette culture d'Égypte ancienne. Donc je vous ai préparé un petit diaporama qui va nous permettre de regarder d'un peu plus près les statuettes en question. Alors, premier objet que je vais vous montrer. Qu'est-ce que vous auriez à me dire pour me décrire cet objet ?
Il est en arrière,
mais sinon
on voit avancer la jambe.
Ah, il avance la jambe ? Pas trop, hein ? Voilà, donc c'est encore un personnage momiforme, hein, avec uniquement la tête et les mains qui sortent des bandelettes. Ok ? Que tient-il ?
C'est peut-être encore une
houe. Ben regardez. Là, pour le coup, on le voit clair. Hein. C'est une houe, tout simplement. N'allons pas chercher midi à 14h. Vous l'avez vu la houe tout à l'heure. C'est la même. Hein. Il tient une houe. Hein. Il tient une houe. Ça se trouve, c'est un houe petit. Il tient une houe. Hein. On va voir que quelquefois, il y a des exceptions qui confirment la règle. Donc, il tient une houe et même deux. Parce que dans l'autre main, vous la devinez, il y a une autre houe là. Ok ? Bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme élément qu'on peut évoquer ? Toujours là ? Il a la barbe funéraire, ok ? Il a la perruque, voilà. Donc, c'est une perruque normale, hein, qui n'est pas du tout une coiffure particulièrement réservée aux pharaons, mais que les pharaons peuvent porter. Hein. Voilà. Quoi d'autre ? Il y a une inscription, un texte, oui.
Oui, ça, c'est pas grave.
Pardon ?
C'est bavard.
Là, il y a du monde, hein. Ouais. Ok. Vous m'avez pas parlé de la technique, de la matière, de la taille.
Pierre.
Non,
céramique. C'est la même céramique. C'est cette céramique glaçurée, hein, cette faïence dont je vous parlais tout à l'heure, qui est souvent couverte, vous voyez, cette glaçure bleue. Hein. Vous avez sûrement vu des quantités de ces objets égyptiens avec une glaçure bleue comme cela. Eh bien voilà, c'est le cas ici. On est donc devant un objet avec une glaçure bleue. C'est cette proto-faïence que vous avez vu tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était plutôt brun-jaune. Hein. Là, c'est bleu, d'un bleu très profond, très vif aussi. Hein. Bien. Donc, finalement, voilà qui confirme ce qu'on a vu précédemment. Ça vous va ? Il n'y a rien qui vous gêne ? Hein ? Alors, cet objet correspond, pour le coup, effectivement, à un pharaon qui s'appelle Psamétique. Hein. C'est un pharaon de la basse époque. Hein. Il y a même eu deux Psamétiques. Là, je ne sais pas si c'est Psamétique 1 ou 2. Voilà. Mais en tout cas, c'est un Ouscheptina pharaon, même si s'il n'y avait pas les hiéroglyphes qui permettent de dire que ça correspond à Psamétique, on ne serait pas obligé de savoir que c'est un pharaon. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez une figure qui n'a rien de particulièrement pharaonique, sinon l'inscription qui désigne bien ce personnage comme tel.
Et tous les Ouscheptis ont une houe ?
Beaucoup. Beaucoup en ont, parce qu'il faut bien assurer le boulot.
Oui. Et la houe.
Hein, voilà. Alors là, je vous rappelle encore une fois que ce que nous voyons, c'est aujourd'hui uniquement des Ouscheptis. Hein. Voilà. Oui, alors là, on dirait un sarcophage. Sauf que nous parlons d'Ouscheptis, pas sarcophage aujourd'hui, je vous rappelle.
C'est une miniature.
Donc, c'est une sorte de sarcophage miniature. Et dans le sarcophage, qu'est-ce qu'il y a ? Ben, c'est un sarcophage grand comme ça. Hein. Le bonhomme, il serait pas bien grand. Hein.
Représentation.
Ah voilà, c'est donc la représentation miniature d'un sarcophage. Et donc, dans le sarcophage, il y a quoi ?
La représentation de la momie.
Et ça s'appelle comment ?
Momie.
Ah non.
Non, c'est pas une momie.
Comment est-ce qu'on appelle ces desservants funéraires ?
Des
Ouscheptis. C'est un Ouscheptis. Vous avez donc un Ouscheptis dans le sarcophage. D'accord ? Ce qui peut être d'ailleurs pour nous faire comprendre quelle est l'origine des Ouscheptis. C'est-à-dire que dans cette culture qui dure près de 40 siècles, hein, et qui a eu le temps de changer, hein, vous avez remarqué que nous, en seulement 20 siècles, on a un peu changé depuis les Gaulois. Vous avez remarqué ça, hein, ben, les Égyptiens, sur 40 siècles, ils ont eu l'occasion d'encore plus changer. Donc en 40 siècles, il s'en est passé des choses. Et au départ, si vous voulez, les Ouscheptis, qui vont notamment au Moyen Empire ou au Nouvel Empire, beaucoup se développer, n'étaient pas tout à fait identiques, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'au début, les Ouscheptis avaient un rôle un tout petit peu différent que la photographie que vous avez ici peut peut-être vous permettre d'imaginer. Ce serait quoi ? Parce que là, l'Ouscheptis que vous avez dans son sarcophage, il n'est pas tout à fait pareil que les Ouscheptis que je vous ai montrés jusqu'à présent. Hein. Jusqu'à présent, on a vu l'Ouscheptis classique, l'Ouscheptis debout, moniforme, avec ses houes, son petit sac, tout va bien, très simple. Et on se dit, ça y est, j'ai tout compris. Manque de bol, la troisième diapo, ça va prendre un Ouscheptis dans un sarco. Pourquoi ?
Représenter le mort ?
Absolument. C'est-à-dire que l'idée, c'est de représenter le mort. Mais pourquoi représenter le mort ? Parce que le mort, il est à côté.
Parce que le mort, il va se promener dans l'au-delà et que lui, il peut rester dans le sarcophage.
Mm-hmm. Un petit peu comme pour, j'allais dire, correspondre à une sorte de permanence du mort. C'est ça ? L'Ouscheptis, qui est dans le sarcophage, est une sorte de double du mort permanent, parce que lui, il ne va pas se barrer. Quoi.
Pas bouger.
Pas bouger, en tout cas. Parce que le mort lui-même, je vous apprendrai en disant que le mort, il peut bouger un peu, hein. Puis avoir des animaux qui vont le manger, que sais-je encore, enfin, des bestioles, enfin, il peut mourir, tout simplement, même s'il est bien momifié. Hein. Alors que ça, c'est effectivement une sorte de double du mort, et bien sûr que le mort reste quand même. Hein. Parce que le mort, dans son sarcophage, il peut, pour des raisons X ou Y, que disparaître, alors que le double du mort, c'est une manière, si vous voulez, d'être bien sûr que le mort reste dans sa tombe. Que même si le mort réel disparaît, pour des raisons bien naturelles, eh bien son double, lui, c'est une chenille, il ne va pas disparaître. C'est pour confirmer la présence, l'existence du mort dans sa tombe. Vous voyez ? Ça vous paraît clair, ça ? Oui ?
Où est-ce qu'était localisé ce genre d'objet ?
Dans la tombe.
Dans une maison ?
Dans la tombe. Dans la tombe. Vous le mettez avec la tombe. Vous mettez le sarcophage avec le mort dedans, et à côté, vous mettez ça. Comme ça, si le mort réel, si j'ose dire, disparaît, eh ben, son double, lui, sera toujours là. Une espèce de substitut, si vous voulez. Et en fait, au départ, si vous voulez, les Ouscheptis, c'est plutôt ça. Les Ouscheptis sont plutôt des doubles du mort. Donc ils sont présentés comme le mort dans un sarcophage, sauf que c'est miniature, on ne va pas faire 50 sarcophages non plus. D'accord ? Hein ? Au début, les Ouscheptis, c'est ça. Et puis de plus en plus, les Ouscheptis, j'allais dire, vont un peu changer de fonction. Ils sont toujours un double du mort. Vous vous rappelez de Hippou tout à l'heure, c'est bien le mort lui-même. Sauf que c'est le mort lui-même, mais à qui on donne la fonction de travailler. D'accord ? Vous voyez cette évolution-là ? Hein ? Voilà. Donc ce que vous voyez là correspond, je dirais, à la vieille tradition des Ouscheptis, qui est d'être non pas un double du mort qui travaille, mais un double du mort qui garantit sa permanence dans la tombe.
C'est une sauvegarde.
Voilà, c'est une sauvegarde. Pour utiliser un vocabulaire informatique, c'est une sauvegarde. Le mort, il peut partir. Voilà. Là, en l'occurrence, c'est un Ouscheptis avec son sarcophage qui appartient au musée royal des Beaux-Arts de Bruxelles. Hein. Et donc, c'est un type d'Ouscheptis que vous pourrez rencontrer. Et là.
Oula.
Primitif.
Je suis désolé, les photos sont détestables, je ne sais pas pourquoi. Bon, on va dire comme ça, vous voyez quand même à peu près.
Primitif ou dégénéré ?
Primitif ou dégénéré. Alors là, c'est du bois sculpté. Là, effectivement, vous avez des Ouscheptis en bois. Parce que ce que vous avez là, sont des Ouscheptis. De toute façon, aujourd'hui, sauf si je vous fais des petits. Voilà, des petits pièges, merci. Aujourd'hui, nous ne verrons que des Ouscheptis. Donc là, vous avez des Ouscheptis qu'on pourrait qualifier de. Primitif, hein, de rapidement fait. Tous les Ouscheptis n'ont pas forcément la qualité de ce qu'on a vu précédemment. Hein. D'ailleurs, le deuxième, vous avez vu, vous rappelez, celui de Psamitique, était plutôt un peu mieux que le premier de Hippon, par exemple. Hein. Bon. Donc, il y a toutes sortes de qualités. Hein. Ça dépend de vos moyens, de l'époque, de la cuisson de la terre cuite, enfin, ça dépend de plein de choses. Hein. Donc là, ce sont des Ouscheptis en bois. Mais qu'est-ce que vous reconnaissez qui montre que c'est quand même des Ouscheptis ?
Des inscriptions.
Alors, il y a des inscriptions qui permettent d'y voir très clair là-dedans, ouais.
Ils sont momifiés, c'est momifiés.
On voit, voilà, on voit, pardon.
Ils sont momifiés, y a pas, on voit pas les bras.
Voilà, c'est ça. On devine effectivement que c'est des sortes de paquets funéraires, hein, momifiés, comme les ouchettis normaux. Simplement, là, on est dans des œuvres soit assez primitives, soit assez sommaires, effectivement. Hein. Je tiens à vous dire d'ailleurs que ce mot ouchepti ou shawepti vient peut-être du fait aussi que on pense qu'à l'origine, les premiers ouchettis étaient en bois. Et je crois, alors je vais peut-être me tromper de prononciation, mais qu'en égyptien, certains bois, certaines essences de bois sont déterminées, enfin données par le mot shaweb, hein, qui donc fait penser à shawepti, ouchepti. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc si ce mot ouchepti existe, c'est d'abord ce que ça veut dire desservant. De shawepti, c'est un serviteur, c'est un desservant. Mais ça correspond peut-être en plus à la matière même des ouchepti au départ, qui était du bois. Donc vous voyez, tous les ouchettis ne sont pas en céramique, comme ceux qu'on avait au départ. Ils peuvent être dans d'autres matières, comme du bois. Et puis il y a des ouchettis très beaux, très savants, on en a vu. Puis des ouchettis beaucoup plus rapidement faits, comme ceux que vous voyez là. OK ?
Il est peint ? Ils sont peints ?
C'est pas très peint. Il y a quand même une sorte de couverte, si vous voulez. Hein. Mais c'est pas très peint. Ce qui est par contre peint, c'est les inscriptions.
Le rouge a une signification.
Alors non, en fait, c'est la couleur du bois. C'est la couleur du bois, mais là, c'est tellement mauvais qu'on a l'impression qu'ils sont peints en rouge, oui. Alors qu'en fait, c'est du bois, c'est du bois. C'est la couleur du bois, mais là, aujourd'hui, là, encore une fois, la connexion est très mauvaise, et voilà, ça donne de très mauvaises couleurs. Voilà. Donc là, on est dans les ouchettis du Moyen-Empire. Oui, c'est à Berlin. Ah, et oui. Autrement, les ouchettis ne correspondent pas que à des garçons, mesdames. Il y a aussi des ouchettis de dames. Et voilà, là, une dame ouchettie, n'est-ce pas ? Vous pouvez me la décrire rapidement, peut-être ?
Un bras, toujours une perruque.
Alors, une grande perruque. Hein. Les perruques de dames sont un peu plus grandes que les perruques d'hommes.
Toujours momiforme.
Toujours momiforme.
On dirait
qu'il y a des bijoux. Oui, absolument. Oui, il y a une espèce de grand collier sur le devant.
Une ceinture,
absolument.
Par contre, dans les mains, on dirait qu'elle n'a rien.
Oui, c'est l'impression qu'on a. Alors, il faudrait la retourner pour voir. Hein. Tout à l'heure, vous me disiez, mais est-ce que le chevalier porte une ouf ? Vous savez, si sur 40 siècles d'histoire, tout était toujours pareil, voilà, ce serait trop beau. Hein. Donc, vous avez des chevaliers qui n'ont pas de ouf, ou alors qui ont d'autres attributs pour nous arranger. Hein. Bon, mais n'empêche que l'idée est toujours la même. Un personnage momiforme, les bras croisés, avec la tête et les mains qui sortent, souvent des instruments oratoires, encore une fois, et le petit sac de grains dans le dos, des bandes de hiéroglyphes qui vous permettent à la fois de savoir de qui il s'agit, parce qu'il faut quand même dire à l'ouchepti qui il est. Si vous ne le nommez pas, ça va être embêtant quand même. Hein. Donc il faut dire qui est l'ouchepti, et c'est inscrit sur lui. À partir du moment où c'est inscrit, c'est que c'est lui. Ça, c'est clair. Hein. Et puis il faut les formules funéraires, comme celles qu'on a dit tout à l'heure. Ça, c'est important. Mais quelquefois, et là, j'ai l'impression que c'est le cas, il n'y a pas forcément d'instruments aratoires, comme ceux qu'on a vus tout à l'heure. Hein. OK ? En quelle matière ?
En bois.
En bois. Alors, c'est effectivement un bois qui, généralement, est quand même stuqué, couvert d'une espèce de couverte un peu plâtreuse, si vous voulez, qui est peint. Hein. D'accord ? Voilà. Donc là, je crois que c'est un ouchepti d'une prêtresse d'Amon, oui, hein, qui s'appelle Tentimentet, une chanteuse d'Amon, hein, et c'est en bois peint, c'est un ouchepti qui se trouve à la Bibliothèque nationale de France, à Paris, au cabinet des médailles. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un pharaon ?
Non, c'est Osiris.
Ah, Osiris. Alors, pharaon ou Osiris ? Pharaon plutôt, Osiris plutôt. Alors, qui est pour Pharaon, qui est pour Osiris ? Autrement dit, c'est pas un shawepti ou un ouchepti.
Si,
c'est un ouchepti.
Vous avez dit qu'il y avait ça.
Mais je vous ai dit aussi, je ferais peut-être des petits pièges.
C'est un ouchepti spécialisé.
Alors, ce serait un ouchepti spécialisé. Vous vous rappelez du premier ouchepti ?
Oui.
L'ouchepti de qui ?
Hippou,
qui est au musée de Chalon. chauve. Et c'est tous ces petits de hippou qu'on a vu tout à l'heure. Il était nommé d'une certaine manière. Osiris hippou. Et là, je vous montre effectivement. Donc je vous rappelle qu'il était aussi Pharaon.
Ben oui, c'est le premier.
Et voilà. Donc en fait, c'est et un pharaon et Osiris. En fait, vous avez tous raison. C'est bien ce qui se passe toujours comme ça. Oui, pardon. On voit. Alors, je vais peut-être vous passer un détail du buste, parce que on y voit de toute façon rien aujourd'hui, mais en plus, voilà. C'est mieux là.
Ah,
ben c'est mieux quand même. Qu'est-ce que vous voyez là? Alors, vous voyez effectivement le crochet à droite. Le flagellum à gauche, c'est-à-dire le fouet, hein, qui sont effectivement les objets du pouvoir royal dans l'Égypte pharaonique. Hein. Le pouvoir royal est symbolisé par ces objets.
Pourquoi le fouet ?
Eh bien, je ne sais pas.
C'est un moyen de management.
Sans doute, déjà. Hein. Mais on aura sans doute à l'évoquer plus tard. Hein. Mais je trouve que ce sont vraiment les attributs du pouvoir. Hein. Le chef a un fouet.
Le crochet, c'est quoi, là ?
C'est un sceptre.
Oui, c'est un sceptre,
oui,
mais en forme de crochet. Non, ce que vous voulez dire, c'est...
Le bâton des bergers.
Alors voilà, on a tout autour du bassin, tout autour du bassin méditerranéen des bâtons. On voit ça, ça existe encore en Grèce aujourd'hui. Hein. Ouais. Des bâtons qui se terminent par un crochet comme ça, et qui servaient tout simplement à crocheter les pattes des brebis. Quelque chose qui permet de remettre la brebis dans le troupeau, si vous voulez. Donc on a, à travers le fouet et le crochet, deux éléments qui, je dirais, se réfèrent à ces, je dirais, conditions basiques du pharaon, du roi, hein, qui est de, j'allais dire, de garder son troupeau, entre guillemets. Ne dites pas trop ça à nos hommes politiques, ça leur donnerait de mauvaises idées, mais en fait, c'est ça l'idée.
C'est le même symbole, par exemple, pour les évêques.
La crosse, absolument. Alors, il a effectivement donc les attributs du pharaon, hein, le fouet et le sceptre, le crochet. Qu'est-ce que vous voyez d'autre qui nous montre, on est bien là, non pas devant un mouchepti.
La coiffe.
Pardon ? Alors, oui, la coiffe, qu'est-ce qu'elle a de spécial ?
C'est la coiffe
d'Égypte,
c'est...
Ouais.
La coiffe blanche.
En forme d'obus. Ouais. Un obus qui a une espèce de bouboule au-dessus. Hein.
Oui.
Voilà. Elle correspond à quoi, cette coiffe ?
C'est la coiffe d'Égypte.
Voilà. Alors, c'est l'Égypte du Sud. C'est la coiffe blanche. Hein. Voilà. Sachant que la coiffe de l'Égypte du Nord, c'est une coiffe qui est plus large et ouverte. Quelquefois, il y a l'une dans l'autre. Hein. C'est quelquefois le pharaon porte la coiffe de la haute Égypte, avec l'Égypte du Nord, qui est ouverte un peu comme le delta du Nil qui s'ouvre, si vous voulez. Hein. Et la coiffe à l'intérieur de la basse Égypte, qui est cet obus fermé. Ah, vous avez déjà vu ça ?
Oui, oui. Hein.
Bien. Voilà. Et bien là, il a la coiffe de la basse Égypte, d'Égypte du Sud, c'est la coiffe blanche. Hein. Qu'est-ce qu'il a sur le front ? Voilà, il a effectivement sur le front un cobra qu'on appelle Uræus, hein, qui est là. Ça, on aura l'occasion de reparler de tout ça tout à l'heure, mais tout à l'heure ou dans les séances plus tard. Hein. L'Uræus est donc un cobra. Hein. Ça aussi, c'est un élément fondamental, on verra plus tard pourquoi, hein, de la personne du roi, c'est-à-dire du pharaon. Sur le côté, il y a aussi deux appendices, c'est quoi ça ?
Deux plumes.
Oui, ce sont des plumes. Des plumes d'autruche. Et plus d'autres trucs. Alors, moi, j'ai quand même une question. Vous avez là une sculpture qui est en quelle matière ?
Faïence,
non ?
Non.
En bois. Hein. C'est une sculpture assez haute. Ça fait plus de 1,50 m. Hein. C'est très haut. Hein. Ça fait à peu près 1,60 et quelques. Hein. C'est haut. Hein. Dure très haute, qui appartient aux collections du Louvre, ça aussi. Hein. Et c'est une sculpture de la basse époque, hein, tardive, qui représente Osiris. Mais pourquoi, même si c'est un petit piège dans lequel vous n'êtes pas tombé, hein, je note quand même que quand je vous ai montré ça, vous avez tout dit, c'est pas un ouchepti, c'est une représentation d'un pharaon ou d'Osiris. Il se trouvait que c'était la représentation du pharaon Osiris. Pourquoi est-ce que je viens vous montrer ça dans une séance consacrée aux ouchepties ?
Pour nous perdre.
Pour vous perdre, ou au contraire, pour vous rassembler. Alors ce n'est pas de fouet, en tout cas, ce n'est que virtuellement. Mais j'ai un bâton pour vous rassembler ensemble. Ce bâton-là me permet, avec Osiris, peut-être de refermer la nasse, qui qui va nous permettre de comprendre ce que c'est qu'un Ushepti.
C'est la même posture.
C'est la même posture. Même posture, c'est-à-dire que ce personnage-là, il est momiforme, comme les Ushepti qu'on a vus, ne sont dégagés que la tête et les mains, comme dans les Ushepti. Alors certes, les Ushepti ne tenaient pas un sceptre et un fouet, mais ça, c'est l'apanage de Pharaon. Hein. Notre hippou, elle n'est pas tenir, parce que notre hippou, ce n'est pas un pharaon. Hein. Tous les Égyptiens ne sont pas des pharaons. Hein. Tous les Égyptiens ne sont pas rois. Hein. Hippou, c'est un sujet de pharaon. Bon. Donc, il a les attributs de base que sont là où est le sac. Voilà. Mais le pharaon, lui, non. Pas forcément, en tout cas. Voilà. Donc, mais quel est donc effectivement, cette figure-là, enfin, les Ushepti, finalement, reprennent l'image d'Osiris. Et encore une fois, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, dans l'Ushepti de Hippou, le nom d'Osiris était lié à celui de Hippou. Le nom du mort était lié à celui d'Osiris. Mais pourquoi ?
Osiris, c'est le dieu des morts.
C'est le dieu des morts. Et pourquoi il est dieu des morts ?
Parce qu'il a été un petit peu trucidé.
Il a été un peu trucidé. Vous pouvez me rappeler peut-être quelques mots. Voilà.
Par son frère.
Absolument. Qui s'appelle comment ?
Seth.
Voilà. Donc, effectivement, Osiris, qui est le fils de la terre et du ciel, hein, de Geb et de Nout, avait un frère, Seth. Et il se trouve que Osiris a succédé à son père, il est devenu pharaon. Sauf qu'il avait un frère, Seth, qui était très jaloux de son pouvoir. En plus, Osiris était, semble-t-il, un très bon roi. Et Seth, on a pris de l'ombrage. Il a décidé, d'abord, dans un premier temps, de rapter Osiris. C'est assez marrant d'ailleurs parce que des textes tardifs nous disent qu'un jour dans un banquet, Seth, qui avait invité son frère Osiris à venir au banquet, lui avait montré un sarcophage, ne sachant pas du tout ce que ça allait devenir, hein, et il avait fait rentrer son frère dans le sarcophage pour lui faire essayer le sarcophage, et quand il a été dedans, il a fermé le couvercle, il a envoyé le sarcophage, et des ailes de Seth ont, là où le sarcophage a été envoyé, coupé Osiris en morceaux, pour être sûr qu'il ne repasse pas. Hein. Et Seth a fait envoyer les morceaux de son frère Osiris, qui est au nombre de 31 ou 32, je ne sais jamais précisément, dans différents coins de l'Égypte, pour être vraiment sûr que Osiris n'allait pas renaître, si vous voulez bien. Mais c'était sans compter sur la sœur d'Osiris, qui est en même temps son épouse, et qui s'appelle Isis, et qui va aller dans tous les coins de l'Égypte, où le corps d'Osiris avait été dispersé, et va récupérer le tout pour reformer le corps d'Osiris. Ça ne marche pas si vous avez déjà essayé de recoller les morceaux d'un corps coupé en 31 morceaux, ça ne tient pas bien. Hein. Et même avec de la colle scotch, c'est pas terrible. Donc, l'idée que Isis a eue, aidée d'ailleurs de Nephthys, ça a été de bangléter tout ça pour que ça tienne mieux, si vous voulez. Je dis souvent, il y a un petit détail très amusant que notamment les tests énigmistiques nous disent. Quand elles ont fait ça, quand on faisait le corps et bandelé, il manquait un morceau. Il manquait une épaule. Hein. Et pour compléter ce bout d'épaule manquante, elles ont pris un morceau d'ivoire d'hippopotame. Hein. Donc Osiris, il a en fait un bout d'ivoire à la base d'une épaule, qui est l'épaule. Alors, jamais retrouvée. Si vous la retrouvez, Isis, ça lui fera plaisir. En tout cas, bah, il y a une épaule qui a été remplacée par un morceau d'ivoire d'hippopotame.
C'est Dracy.
Pardon ?
C'est Dracy.
Dracy, c'est. Ah oui, c'est Dracy. Absolument. Voilà. Ce qu'il faut vous dire d'ailleurs, c'est que cette légende de Osiris, hein, évidemment connue comme nos légendes chrétiennes d'Occident, hein, des quantités de versions, hein, ces légendes dorées, si vous voulez. Hein, vous trouverez des tas de versions diverses et variées. Enfin, voilà en gros le statut. Et à vrai dire, une fois bandeletté, une fois momifié, Osiris a pu, j'allais dire, renaître et reprendre son poste, en quelque sorte. Hein, voilà. Aidé notamment du fils d'Osiris et d'Isis, qui s'appelle Horus. Absolument. Voilà. Bien, mais de tout ça, on parlera un peu plus tard. Alors, je repose ma question. Pourquoi Osiris est si important par rapport aux Ushepti ? Pourquoi l'Ushepti de Hippou est appelé Osiris Hippou ? Vous l'avez dit déjà un peu tout à l'heure.
Oui, par référence au royaume des morts, pour accueillir le
défunt. Oui, alors, pour accueillir le défunt, et puis, il y a une autre raison aussi. Osiris, encore une fois, il n'est pas que le roi des morts.
Non, il est roi d'Égypte.
Il est roi d'Égypte. Et puis surtout, qu'est-ce qui lui est arrivé ?
Il est mort,
et puis il a ressuscité. Ça, c'est quand même vachement important. Hein. Osiris, il est mort, et il est ressuscité. Ben, ce qu'on propose en faisant que Hippou qui est mort puisse ressusciter, c'est l'enfer, le Zélicipou. Comme ça, il n'y a pas de problème. Vous voyez ce que je veux dire, hein? En liant le mort à Osiris, en lui faisant prendre les habits d'Osiris, c'est assurer sa résurrection. C'est quand même capital, ça. Si nos Égyptiens ont le même habit qu'Osiris, c'est pour assurer la résurrection des morts. Voilà. Tout simplement. D'où le fait que Osiris est décidément très très lié, bien sûr au monde funéraire, etc., mais à cette représentation des Égyptiens. Hein. Donc voilà, alors, on est à la basse époque, ça représente Osiris, on est vers 350 avant Jésus-Christ, c'est du bois peint, les yeux et les attributs sont en verre ou en bronze, et ça appartient donc aux collections du Louvre. Je regarde l'heure, c'est bien. Voilà, et ça.
Encore un,
c'est-à-dire
encore un
Nouchelti. Avec les ou, alors vous les voyez bien. Hein. Ce personnage, c'est qui?
Ça, c'est Pharaon.
Ah, ça, c'est Pharaon. Qu'est-ce qui vous montre que c'est Pharaon? D'accord. On l'appelle comment cette fois?
Le
Némès, absolument. Hein. Là, c'est plus du tout la perruque qu'on avait tout à l'heure. Rappelez la perruque, ça n'a rien à voir. Hein. Vous avez vu, vous avez des yeux pour voir, de toute façon. La perruque, c'est toute bête, quoi. C'est une perruque avec le dessus et les côtés qui pendent. Là, vous êtes devant, non pas du bébé, mais une coiffe, c'est différent, hein, qui s'évase sur les côtés, qui revient sur le devant. C'est pas du tout une perruque, c'est une coiffe, c'est le Némès. Ça, c'est la coiffe de Pharaon. Hein. C'est comme si vous confondiez une couronne royale et puis une perruque toute bête, quoi. Ça n'a rien à voir. Le Némès, c'est la coiffe de Pharaon. Donc là, on a effectivement un Nouchepti de Pharaon. Vous voyez qu'il a beau être Pharaon, il a quand même des roues. Hein, c'est-à-dire que ce double de Pharaon, dans la tombe, devra, pour Pharaon, qui est son double, hein, alimenter Pharaon. D'accord ? Pas compliqué, finalement. C'est simple, hein ? Voilà. Donc c'est un très beau Shawepti de Ramsès IV, hein, on connaît Ramsès II, mais il y en a eu d'autres, hein. Ça c'est Ramsès IV, ça date du Nouvel Empire, et c'est un Nouchepti en bois peint, qui appartient aussi aux collections du Louvre. Là, il y en a un paquet. Alors ça revient avec quelque chose que vous nous disiez, monsieur, tout à l'heure, et qui est important.
Souvent, oui, une armée de...
C'est ça. Parce que on a mis les Shawepti tout seuls, ok. Mais est-ce que dans chaque tombe, il y avait un Shawepti? Au départ, oui. Au départ, hein, vous vous rappelez, les Shawepti, notamment ceux qu'on mettait dans 10 sarcophages, qui étaient les substituts du mort, hein, bah souvent ils étaient seuls dans la tombe. Hein. Mais petit à petit, au Moyen Empire, et surtout au Nouvel Empire, on a multiplié les Shawepti. Pourquoi?
Pour être sûr que le boulot se fasse.
Et bien voilà. Parce que les Shawepti, il y a des sacrés feignants dans les Shawepti. C'est pas comme dans la vie réelle. Vous savez, dans la vie réelle, tout le monde bosse tout le temps. On est bien d'accord. Hein. Mais chez les Shawepti, quelquefois, ça laisse à désirer. Hein. Alors, si vous avez un Shawepti qui est feignant, vous l'avez bien loti, vous, dans votre tombeau, etc. Hein. Il faut que vous ayez des Shawepti qui soient efficients. Alors, vous mettez beaucoup de Shawepti. Et pour être vraiment sûr que vous ayez des Shawepti qui fonctionnent, qu'est-ce que vous êtes en droit de faire?
Des chefs.
Alors, vous pouvez leur mettre des chefs. Ça, c'est important, effectivement. Hein. Donc, vous leur mettez des chefs. Hein. Il y a souvent des chefs Shawepti. Souvent, les Shawepti, ils sont organisés par dizaines. Et il y a des chefs Disney. Il y a le chef Disney et 10 Shawepti derrière. Hein. Mais si vous avez un chef Disney et 10 Shawepti dans votre tombe, c'est bien. Mais enfin, vous pouvez aussi avoir un chef Disney qui est pas très... qui casse pas des balais, quoi.
Plusieurs.
Ah, vous en faites plusieurs. Vous pouvez en faire combien?
10 fois 10.
Et voilà, par exemple. Et pour être vraiment sûr que tous les jours de l'année, vous ayez un Shawepti qui fonctionne, un par jour. En fait, notamment au Nouvel Empire, souvent, on voit dans les tombes autant de Shawepti qu'il y a de jours. Voilà. Avec souvent, effectivement, à la tête des Shawepti, un chef Shawepti, un chef Disney, comme ça vous êtes sûr, on est en 365 Shawepti, et même un peu plus, notamment les chefs Disney, que vous avez toujours un Shawepti qui chaque jour va bosser. Et là, pas de problème. Ça donne ça.
L'année égyptienne n'était pas forcément 360.
Pardon ?
L'année égyptienne.
Ça dépend des moments. Justement, j'ai vérifié ça, parce que je me suis dit, tu as 365 jours, c'est pour nous, ça. Égyptien, non. Eh bien, si.
Ah oui.
Ah oui, j'ai été très surpris. Si je me dis que c'est une chose occidentale tardive, eh bien, non. Ah. 365 jours. En tout cas, au Nouvel Empire, oui. Et alors, ça dit, il y a des moments où ça a dû changer l'eau. Je pense que c'est pas sur 40 siècles. Hein. Voilà. Mais j'ai revérifié encore ce matin en disant que c'est pas possible. Eh bien, si. Ouais. Marrant, hein. Voilà. Donc là, vous avez une armée de Shawepti, une troupe de Shawepti. Avec ça dans la tombe, vous êtes tranquille. Hein. En plus, c'est assez facile à faire. C'est des objets moulés. Hein. Donc ça se moule et puis ça se reproduit. Hein. Voilà.
Le fabricant de Shawepti, ça s'appelle comment ?
Un centenier. Voilà. Donc voilà. Là, c'est les Shawepti, un certain Neferibreheb. C'est une série qui est au musée du Louvre. Et c'est tout ça en faïence, bien sûr. Cette faïence bleue, vous connaissez bien. Et ça, qu'est-ce que ça vous dit ?
Ah, mais il n'est pas
mummiforme. Ah, tiens, il n'est pas mummiforme. Voilà, un charabia. Ben zut, alors nous qui avons vu que tous les charabias étaient mummiformes, voilà encore un piège que je vous ai tendu. Eh bien, non. Ça voudrait dire quoi ?
Que c'est pas un
charabia. Alors, c'est un charabia. Ah, mais pas mummiforme. Alors, si c'est un Shawepti par mummiforme, ça veut dire que ce serait quel genre de Shawepti ?
Ben, vivant.
C'est un Shawepti vivant, puisqu'il n'est pas mummiforme. Oui. Vous avez raison. Donc, c'est un Shawepti vivant, mais alors, quel est son rôle par rapport au Shawepti mort, entre guillemets ? Il n'est pas si mort que ça, mais si on te Osiris, donc ils vont naître. Ils vont naître. Eh bien, c'est les chefs. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a parlé des chefs. Les chefs, il ne faut pas qu'ils aient les deux pieds dans le même sabot, je peux vous dire. Hein. Quand on a 10 Shawepti à faire bouger, il vaut mieux assurer. Hein. Et bien les Shawepti chefs, les chefs Disney, ils sont comme les vivants. Donc ils sont torse nu avec un pagne, ils ne sont pas mummiformes. Hein. Alors ça donne ça. Bon, voilà. Donc vous voyez, au niveau de la matière, on est toujours dans cette faïence bleue dont on a déjà parlé. Hein. Maintenant, tout ça, on connaît. Hein. Bon, une petite statuette, bien sûr. Et donc c'est un objet qui appartient aussi aux collections du Louvre. C'est un Shawepti de Pénidjedjem Ier. Et voilà ce que ça donne. Là, vous avez, si vous voulez, des sections de famille de Shawepti. Vous avez, vous le devinez peut-être ici, le chef Disney, qui est comme le précédent, en tenue de vivant. Et là, vous avez des Shawepti mummiformes. Alors voilà un autre chef d'ignée, une série de Shawepti. Un autre, une série de Shawepti, etc. Vous voyez comment ça se passe ? Vous avez le chef en tenue de vivant et les 10 Shawepti qui suivent. OK ?
Oui.
C'est clair pour vous ?
Oui.
Bien.
Couperus.
Un peu des Couperus, oui. C'est des Shawepti.
Un peu d'étain.
Un peu d'étain, oui. En quelle matière ? Céramique ?
Non.
Non. Non.
En bois peint.
Pas bois non plus.
En plâtre ?
Pas plâtre.
En pierre ?
En pierre.
En pierre.
C'est même de l'albâtre. Alors, ces Shawepti-là, moi, j'ai trouvé très rigolo. Ils sont assez... Quelqu'un disait, ils sont assez moches. C'est pas faux. Mais moi, j'ai trouvé rigolo, plus que moche. On les appelle à profil perdu. On les appelle à profil perdu, parce que je sais pas si vous avez déjà taillé de l'albâtre, mais ça peut être une pierre un peu savonneuse, entre guillemets. Hein. Mais c'est quand même une pierre qui peut être pas si tendre que ça, hein, un peu dure. Donc, si vous voulez, c'est un peu moins simple de faire des Shawepti dans l'albâtre ou dans du marbre que de les mouler avec de la terre, quoi. Hein. Donc ça, des Shawepti un peu ectoplasmiques, vous voyez ce que je veux dire ? Qui sont quand même des Shawepti, on peut lire leur inscription, et vous en avez là un exemplaire. Donc tous les Shawepti ne sont pas en bois, ce qu'ils étaient à l'origine, en terre cuite, ils ont été dans la grande majorité, ils sont parfois aussi en pierre. La preuve.
En du milieu, il y a une tête de chien.
Absolument, oui, absolument. Ouais. Enfin, vous voyez les deux bras, etc. C'est pas toujours très bien fichu, décidément. Hein. Vous voyez, tous les Shawepti ne sont pas d'idéale qualité. Par contre, c'est quand même une Shawepti d'un pharaon. Hein. Là, c'est les Shawepti Ramsès VI. On a vu Ramsès IV tout à l'heure, là, c'est Ramsès VI. Ben oui, Ramsès VI, il y avait des problèmes de fin de mois. Et là
wow, c'est excellent. Et une fille.
Une fille.
Une fille, oui.
C'est un chef. Une fille chef.
Bah, elle
n'est pas brune. Alors, c'est pété. Pardon.
On dirait qu'elle a un genou.
Ah oui, c'est vrai, elle n'a pas de jambes. Mais le problème, c'est que si on la regarde de côté, il n'y en a pas davantage. Pourquoi ça?
Une cul-de-jatte.
Une cul-de-jatte. Enfoncée dans la terre. Parce que la statuette a été faite comme ça. Elle se finit là, hein, c'est pas cassé. Si vous voulez. C'était fait comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce chawapti qui représente une femme nue? Pardon? Eh ben. Alors, elle est pas ligotée, mais vous savez, ils sont souvent un peu comme ça, les Égyptiens. Hein. Voilà. Il n'y a pas tellement de gestes. Voilà. Donc, elle est effectivement assez erratique, mais ça, c'est assez normal. Elle est nue, très nue même. Hein. Elle est tatouée. Hein. Elle est très mode, très tendance. Hein. Très tendance. Elle a une petite coiffure assez sympa. Elle n'a pas la loupe perruque parfumée avec la mode de beurre parfumée au-dessus. Hein. Elle est vraiment assez... Elle a une petite frisure, c'est assez sympa.
Hein.
Elle a des grandes oreilles, ouais, elle est assez sexy.
Collier.
Hein.
Voilà. Et bien pourquoi elle n'a pas de jambes alors?
Alors pourquoi elle n'a pas de jambes? Parce que vous avez raison, hein, c'est, j'allais dire, une sorte de, d'objet sexuel, si vous voulez. C'est, dans les tombes masculines, un élément qui est là pour assurer, dans l'au-delà, la sexualité du défunt. Il faut y penser à ça aussi. Il n'y a pas que la bouffe qui compte, si vous voulez. Il faut aussi que tout puisse se faire dans la tombe. Eh bien voilà, on met donc une figure féminine de ce genre. Et pourquoi il n'y a pas... Oui, voilà. Et pourquoi il n'y a pas de genre? Et ben voilà. Pour pas qu'elle se sauve. Pour pas qu'elle se sauve. Je tiens d'ailleurs à dire qu'il n'est pas rare que les ouchéptis eux-mêmes aient les jambes cassées. On trouve très souvent des ouchéptis qui n'ont pas de jambes. Alors, c'est soit parce qu'ils sont tombés, qu'ils sont cassés, que c'est vieux, etc. Mais on trouve aussi des ouchéptis dans la partie inférieure, n'est plus là, parce qu'ils ont été cassés pour être sûr qu'ils restent dans la tombe.
Alors tout à l'heure, c'est, il y avait des bras cassés, puis maintenant...
Voilà, exactement. Là, c'est plutôt des jambes cassées. En ne mettant pas de jambes ou en cassant les jambes des ouchéptis, c'est une manière de les obliger à rester dans la tombe. C'est assez rigolo.
Oui, pas tellement pour elle.
Oui, oh ben pour les ouchéptis aux jambes cassées non plus. Donc on appelle ça souvent des concubines du mort. Hein, la concubine du mort, c'est un objet, si vous voulez, sexuel qui est mis dans la tombe pour accompagner le mort. Voilà. Et ça. Alors je ne demande pas ce qui est représenté sur cet objet, parce que ça on en reviendra plus tard. Ça. Mais qu'est-ce que vous voyez là comme objet?
Un objet en bois.
Un objet en bois, qui est quoi? Qui est une boîte. Pourquoi je vous montre une boîte?
C'est pour ranger les ouchéptis.
Exactement. C'est une boîte et ouchéptis. Parce que quand vous avez quelquefois jusqu'à 400 ou 500 ouchéptis, ce qui est quelquefois, on en met plus que les jours de l'année pour blinder le truc, si vous voulez. Quand vous avez 500 ouchéptis, alors tout le monde, vous pouvez les mettre par terre, ça, c'est le cas souvent. Hein. Mais quelquefois aussi, il faut fédérer un peu tout ça pour que les chefs Disney s'y repèrent quand même. Donc vous avez des boîtes et ouchéptis. Pratique. Ça, c'est une boîte et ouchéptis. C'est sympa. Voilà. Oh, c'est pas très grand, c'est haut comme ça. Vous pouvez mettre une dizaine de ouchéptis là-dedans. Et puis vous pouvez avoir plusieurs boîtes. Hein. Voilà. Donc voilà une boîte ouchéptis, un coffret ouchéptis. Ça date du Nouvel Empire. Je vous en montre un autre, par exemple, plus petit. Voilà. Parce que tout dépend également de ce que vous avez comme... Et comme moyen, hein. Quelquefois, si vous n'avez pas de moyen, si vous êtes un artisan de Der el-Médineh, Der el-Médineh, c'est l'endroit où travaillait ce personnage que vous avez là. Hein. Voilà. Et ce personnage que vous avez là, dont vous voyez l'ouchéptis, travaille à Der el-Médineh. Der el-Médineh, c'est une localité qui est proche de la vallée des rois, où se trouvaient les artisans qui réalisaient à la fois les tombes, mais les objets funéraires pour la vallée des rois. Vous voyez ? Donc il y avait Der el-Médineh, une espèce d'immense ville d'artisans, qui étaient des gens avec une dextérité extraordinaire, mais qui pouvaient, à leurs heures perdues, se faire des petits objets funéraires pour eux. C'est le cas ici. Simplement, eux n'avaient pas forcément le temps et les moyens de se faire 365, 400, 500 ouchéptis. Alors on faisait quelques ouchéptis, puis une petite boîte, parce que c'est sympa. Hein ? Voilà. Donc voilà une boîte et ouchéptis, et deux ouchéptis qui vont dans la boîte. OK ? On a encore quelques minutes. Ouais. On va pas se fier, de toute façon. Alors là, encore un ouchéptis, quelle matière?
Pierre.
Pierre, c'est de la pierre, c'est du granit. Hein. granit. Je dois vous dire que ça, c'est une sculpture un peu plus haute que les autres. Et je vous dis, normalement, c'est quoi? Moi, je connais qui ont quelques centimètres. Hein. Il y en a qui font 10 centimètres, 12 centimètres. Là, ça fait carrément une trentaine de centimètres. C'est du gros, c'est du lourd, hein. Du granit. Hein. C'est un objet petit de qui, de quoi? D'un pharaon. Pourquoi vous reconnaissez que c'est un pharaon?
Le
cercle, le fouet, la barbiche, mais qui peut correspondre à d'autres que les pharaons. Hein. Et puis,
la couronne,
hein, l'Égypte inférieure. Hein, voilà. Alors là, il se trouve que c'est un chaouti, donc d'un pharaon. Maintenant, nous le reconnaissons bien. Hein. C'est Amenophis III. C'est amusant parce que Amenophis III s'est fait faire toute une série d'objets petits en pierre. Hein. Alors là, c'est du solide. Hein. C'est plus ces petits objets petits en bois ou bien les objets petits en terre cuite qui sont plus ou moins faits. C'est de la pierre, du solide, c'est du granit, ça tient le coup. Et d'assez grande dimension. Lui, vraiment, il bétonne ses objets petits. Hein. Voilà. Il ne s'agit pas de rigoler non plus. Hein. Voilà. Alors
ils sont deux.
C'est des jumeaux.
Des jumeaux ?
C'est des femmes.
Des femmes ? Un couple ? Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un couple, d'ailleurs ?
Les
perruques ne sont pas les mêmes. Vous avez à droite une perruque féminine longue, et à gauche, une perruque masculine plus courte. Il y a l'homme à gauche, la femme à droite. Donc c'est quel genre d'objet petit, ça ? Puisqu'il s'agit bien d'un objet petit. Eh bien, c'est un objet petit de couple. C'est quand même sympa. Un objet petit de couple. C'est bien un objet petit de monsieur ou de madame, c'est un objet petit de monsieur ou madame. Hein, vous remarquez qu'il y a quelque chose là?
Oui.
C'est une gourde.
Oh, ça pourrait être une gourde.
Une grande feuille.
Ouais. Ben, c'est pas ça.
Un crâne?
C'est pas un crâne non plus. À vrai dire, je vais vous dire ce que vous ne pouvez pas le deviner. C'est un oiseau avec une tête humaine. Cet oiseau avec une tête humaine, on l'appelle l'oiseau bas, B1. Souvent, il y a un accent sur, en fait, sur le A, je crois. Bas. Qu'est-ce que ça peut être cette représentation de bas, de l'oiseau bas, ça peut être quoi?
Un dieu.
On va dire une divinité, une déité. Qui évoquerait quoi? L'âme, absolument. Bas, c'est l'âme. Hein, c'est intéressant parce que je rappelle qu'en Occident, on présente des âmes. Alors, elles ne sont pas forcément avec des ailes, mais dans l'Occident médiéval, par exemple, les âmes sont enlevées, vous savez, c'est des petits personnages enlevés par des anges. Donc, on a des choses un peu équivalentes, je dirais. Hein. Donc, voilà un type de chepti plus rare, mais qui sont des chepti couples, si j'ose dire, hein, où vous voyez ici, donc, un intendant avec son épouse. Hein.
Et c'était dans la tombe du couple?
Absolument, seul... absolument.
La tombe du couple.
Ouais.
Donc ils étaient morts ensemble.
L'un peut mourir avant l'autre. Il y a plusieurs possibilités.
D'accord.
Et alors là, je crois que c'est la dernière image. Pourquoi je vous montre ça? C'est quoi ça?
Une
maison de poupée. Bien. C'est en quelle matière? En bois peint. C'est en bois peint. Hein, on n'est pas en Chine, ou ce sera en terre cuite, effectivement. On a des choses un peu équivalentes en Chine. Là, on est en Égypte. Et c'est du bois peint. Sur cette dimension-là, quoi, ça fait 50 cm de côté, à peu près. Donc ça représente quoi, vous disiez?
Une maison.
Pardon?
Une habitation.
Une maison, habitation. Pure et dure.
Une pièce. Une maquette.
Alors c'est voilà, c'est un modèle réduit. Une maquette, hein, absolument. C'est pas une maison en vrai. Hein, voilà.
Voilà.
Mais est-ce que vous remarquez ça, là-haut? Moi, une maison avec des trous au-dessus, ça me plaît moyennement.
C'est des silos.
Voilà, ce sont des silos. Des silos pour mettre quoi?
Du grain.
Ça vous rappelle quelque chose?
C'est une ferme.
Pardon?
C'est une ferme.
Et ça, est-ce que, je sais pas, ça vous rappelle quelque chose qu'on a déjà évoqué?
Ouais,
bah, pas que le premier. Voilà. Les
Ouchers
petits, ils tiennent quoi? Qu'est-ce qui est un attribut quasi permanent des Ouchers petits? C'est la houe. Et qu'est-ce qu'il a dans le dos? Le sac à grains. Voilà. Bah, une fois qu'on a planté, que le grain est semé et que ça pousse, ça donne des graines, hein, du blé, etc. Enfin, du blé essentiellement, et ou du houblon, que sais-je. Et il faut le stocker dans des silos. Voilà. Donc on mettait ça où?
Dans la tombe.
Dans la tombe. Ce que vous avez là, ce n'est pas une maison de poupée pour les vivants, hein. C'est un silo représenté que l'on met dans la tombe. Parce que c'est bien beau d'avoir des choses petites, mais une fois qu'ils ont fait la récolte et qu'ils ont le grain, le blé, qu'est-ce qu'ils en font? Ils vont le laisser par terre? Eh ben non. Ils ont les greniers pour mettre le grain.
Il va falloir le moudre.
Ah, mais pas de problème. Vous voulez le moudre votre grain? Eh ben écoutez, allons-y. Bon, ça c'est donc une maquette, voilà. Voilà. Alors là, on moue pour faire de la bière. Tu n'as rien à faire, mais je pourrais vous montrer d'autres scènes. Hein. Voilà. Quelquefois aussi, si vous êtes un peu loin, il faut le ramener sur le Nil. Qu'à cela ne tienne. Bah oui. Voilà. Donc vous mettez tout ça dans la tombe et vous êtes tranquille. Hein. Voilà.
C'est mieux que les centons. Hein.
Pardon ?
C'est mieux que les centons.
N'est-ce pas ? Encore que les centons, c'est pas mal.
C'est pas mal.
Ah oui.
Vous pouvez, c'est bien réalisé. Très joli.
N'est-ce pas?
C'est très beau.
C'est très beau. Et donc, vous avez dans les tombes quantité d'objets comme ça. Hein. Alors, encore une fois, après, tout dépend du statut du personnage, etc. Mais vous avez quantité d'objets comme ça qui permettent aux défunts dans la tombe de s'assurer un avenir dans l'au-delà qui est complet, si vous voulez.
Et là, c'est en quoi?
En bois peint. En bois peint. Et oui.
Résoudre le problème du soleil pour faire pousser vu qu'il
n'y
a pas de soleil.
Oh,
mais si.
Oh là là, c'est imaginaire.
C'est un monde parallèle, identique.
Voilà, on va dire ça marche. Voilà, oui. Non, effectivement, c'est un monde souterrain, mais l'au-delà nous réserve des merveilles que nous ne connaissons pas encore, mais que nous connaissons certainement un jour, et dans lesquelles il y a des choses sûrement parfaites qui permettent de subvenir à tous nos besoins. Ça veut en faut des bras. On les a. Ben voilà, c'est sur ces excellentes suggestions qu'on va terminer cette première séance, hein, et qui nous a permis, mine de rien, via ces questions qui ont une partie des rites funéraires, hein, de pénétrer déjà bien avant dans cette culture égyptienne que je vous propose de revoir. Alors, je ne sais plus quand on se voit pour la deuxième séance.
Le 25, non ?
Le 25, peut-être. Voilà. Eh bien, on ira un petit peu plus loin.
Non, avant.
Mais je crois pas la semaine prochaine.
Non.
Non, il y a une autre séance demain, mais pour les orientalistes, hein, les asiatisants, si j'ose dire, viendront demain pour l'avant-dernière séance, hein, l'avant-dernière séance du cycle Asie, mais pour la deuxième séance du cycle Égypte, c'est, voilà, donc le 27, hein, de toute façon, vous avez tous les deux. Bah, écoutez, je vous remercie, bravo, et à bientôt.
Merci à vous.